Et on va accueillir comme il se doit Michel Favret. Michel, bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour Joël.
Alors vous avez réagi, hein, on a parlé de Dordogne, hein, on rappelle, hein, l'association Constellation et Galaxie, donc vous venez de Dordogne. Hein. Ouais. Et avant de commencer la chronique, voilà deux mots hein, sur cette association, puis on redonnera bien sûr des infos à la fin de votre chronique, Michel.
Ben, Constellation et Galaxie, toujours basée dans la région de Mussidan, à Saint-Médard-de-Mussidan, si on veut être précis, en Dordogne, donc à peu près à une heure de route de Bordeaux, qui est active dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie, avec surtout un planétarium itinérant qui va dans les écoles, les collèges, les lycées, et particulièrement sur la région de Bordeaux, en raison de la grande population scolaire, et pendant les vacances aussi, avec des centres de loisirs ou de vacances.
Voilà, c'est un petit rappel, mais c'est bien. Puis on redonnera quelques infos tout à l'heure, mais le site constellationgalaxie.org a été partagé d'ailleurs via le Facebook de la radio. Alors Michel, avant d'attaquer votre 26e chronique astro, voilà, avant de parler de l'actu et de plein de belles autres choses, on va évoquer un petit peu vos vacances, mais là, c'est pas en tant que touriste et citoyen, parce que même en vacances, cette passion hein, de l'astronomie est toujours belle et bien présente. Alors dites-nous un petit peu
voilà,
en vacances.
Début octobre, pendant un peu plus de 10 jours, une petite quinzaine, j'étais en Inde, dans l'Inde du Nord, hein, surtout le Rajasthan, pour une visite d'abord touristique, hein, tout un trajet permettant de voir des forteresses, des palais, des temples, etc. Pour l'astronomie, je dois dire que je suis un peu déçu, parce qu'en fait... ça commence mal, parce que j'étais en début de voyage avec peu de lune, donc de bonnes conditions pour observer le ciel, sauf que j'avais pas pensé que la pollution lumineuse était aussi importante en Inde. Partout dans les guides, on voit qu'ils ont des problèmes d'électricité, que ça coupe sans arrêt, mais pour l'éclairage, ça semble plutôt bien marcher. Alors ce que j'aurais voulu voir, c'est un peu comme je l'ai fait il y a quelques années à Tenerife, dans les îles Canaries, c'est la Voie lactée un peu plus haute dans le ciel, hein, puisqu'on est plus bas en latitude, à peu près à 28 degrés de latitude nord, ce qui permet de mieux voir la partie centrale de la Voie lactée plus haute dans le ciel. Donc j'ai pas pu vraiment le faire. La seule bonne nuit, c'était dans le désert, hein, c'est une zone désertique qu'on appelle le désert d'Utah, où on était sous tente. Là, le ciel était meilleur, il n'y avait pas de pollution lumineuse. Par contre, il y avait déjà une grosse lune, c'était le premier quartier, et j'ai pas pu bénéficier de cette vision de la Voie lactée. Par contre, j'ai visité un observatoire que je voulais absolument voir si j'allais en Inde. C'est l'observatoire de Jaipur, qui date du 19e siècle, hein, vers les années. Il a été construit dans les années 1730 par le Maharaja Jai Singh, qui a fondé la ville, hein, d'où le nom de Jaipur, du nom de Jai. Mais c'est un observatoire très déroutant parce que contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, des coupoles avec des lunettes, des télescopes, ça n'a rien à voir. À cette époque-là, l'Inde était restée dans une astronomie beaucoup plus observationnelle à l'œil nu. Et ce sont des immenses installations en maçonnerie, en marbre blanc avec des incrustations de fer noir pour marquer les graduations, qui permettent d'étudier le ciel, la position des astres dans le ciel, par exemple avec un petit, si je peux dire, cadran solaire qui donne l'heure avec une précision de 20 secondes et un beaucoup plus grand, alors lui il est vraiment immense, qui permet d'atteindre une précision de 2 secondes simplement en lisant l'ombre du soleil, l'ombre faite, disons, par le mur sur un cadran très très précis, quoi. Et d'autres instruments, hein, il y a au total presque d'une vingtaine d'instruments. C'est vraiment un observatoire hors du commun et ça vaut le coup de le voir.
Toujours en activité ou ça reste une...
Il est toujours en
activité. Néanmoins, surtout pour un passionné comme vous, mais il est en activité.
Il est en activité. Certains instruments, disons, en particulier le grand cadran solaire, est utilisé de temps en temps par des étudiants, d'après ce que nous a dit le guide. Et même avec une autorisation spéciale, mais comme je n'avais pas prévenu à l'avance de mon arrivée, on n'a pas pu organiser ça, le guide a déjà eu l'occasion d'aller observer vers midi l'ombre du soleil qui passe avec une très très grande précision sur le cadran.
Très bien. Mais voilà, c'était une belle entrée en matière. Hein. Voilà, puis on vous souhaite d'y retourner hein, dans des peut-être de meilleures conditions hein, pour pouvoir mieux observer. Allez, alors on va parler de l'actu. Alors tout à l'heure, je parlais du crash de Schiaparelli sur Mars. Voilà, c'est l'actu. J'ai bien prononcé parce que je sais que
vous
parlez plusieurs langues.
Je suis pas spécialiste de l'italien, contrairement à mes enfants.
Schiaparelli.
Mais je crois que c'est plutôt Schiaparelli, la façon
bon,
de le prononcer.
Oui, très bien, Michel.
On oublie le H.
Voilà. Bon, ok, on oublie.
Alors, il semble que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, n'ait pas de chance avec ses atterrisseurs, car après les déboires de Philae sur la comète Chury, c'est maintenant la sonde Schiaparelli qui s'est écrasée la semaine dernière, mercredi dernier, il y a une semaine, sur Mars. Au passage, d'ailleurs, je trouve bizarre qu'on lui ait donné ce nom de Giovanni Schiaparelli, parce que c'est l'astronome italien qui avait cru voir des canaux sur Mars lors de l'opposition de 1877 et qui indirectement est à l'origine de tout le mythe des Martiens. Alors comme pour Rosetta, qui est un grand succès pour la mission, pour le reste de la mission, il ne faudrait pas que ce raté fasse oublier l'orbiteur de la mission ExoMars, hein, que j'avais déjà évoqué ici en mars dernier au moment de son lancement. Hein, je rappelle aux auditeurs que c'est lors de l'opposition, quand la Terre et Mars sont au plus près, qu'on dispose de la meilleure fenêtre de tir pour lui envoyer des sondes qui parcourront ainsi un trajet plus court, soit à peu près 6 mois, et cette situation favorable se reproduit à peu près tous les 2 ans. Alors quelques éléments de rappel sur la mission ExoMars. Elle était constituée de 2 parties. Tout d'abord un satellite appelé TGO, qui veut dire Trace Gas Orbiter, car son but est d'étudier les gaz de l'atmosphère martienne, comme d'autres sondes américaines et indiennes le font déjà. On observera en particulier le méthane, qui semble obéir à des cycles saisonniers, ce qui pourrait être un indice de la présence de vie dans le sous-sol martien, dont l'activité varierait en fonction de l'ensoleillement. TGO pèse dans les 4 tonnes et comprend une antenne parabolique de plus de 2 mètres de diamètre pour communiquer directement avec la Terre. L'autre partie était l'atterrisseur, relativement petit, 2,40 m de diamètre et à peu près 600 kg. Son nom officiel était EDM, ce qui signifie en anglais Entry, Descent and Landing Demonstrator, module, car c'était un module de démonstration, je mets ça entre guillemets, qui devait permettre de vérifier que les Européens sont capables de poser en douceur un engin à la surface de Mars. Et ce n'est pas une mince affaire, car dans les années 70 à 2000, plus de la moitié des sondes américaines et russes qui l'ont tenté se sont écrasées.
Alors comment s'est produit le crash, Michel ?
Alors selon les informations fournies par l'ESA, il semble y avoir eu une suite d'anomalies dans le processus d'atterrissage. La première phase de freinage, elle, s'est bien passée. Elle permet de passer à peu près de 21 000 km/h à 1700 en 4 minutes. Et c'est l'atmosphère qui freine l'atterrisseur avec un bouclier thermique, comme on peut se souvenir des entrées dans l'atmosphère terrestre des capsules Apollo dans les années 70 ou celle de la navette spatiale pour les auditeurs les plus jeunes. Les ennuis ont commencé avec le freinage par parachute, qui devait réduire la vitesse à environ 250 km/h en 40 secondes, mais cela n'a duré que dans les 3 à 4 secondes. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, le parachute s'est-il détaché trop tôt ou a-t-il mal fonctionné, par exemple il aurait pu se mettre en torche ou être déchiré. Du coup, la sonde a poursuivi sa chute libre sur 3-4 km, sans doute en accélération, ce qui fait que quand les rétrofusées se sont allumées pour réaliser le freinage final d'environ 30 secondes, la vitesse était bien trop grande pour arriver au sol à 4 km/h comme c'était prévu, et la sonde a probablement percuté la surface de Mars à plus de 300 km/h. Sur les images prises le lendemain par l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, on voit, d'après ce que j'ai lu, le parachute étendu au sol, il fait 12 mètres de diamètre, et à 1 km environ, une tache noire de 15 mètres par 40 à peu près, qui est sans doute le lieu du crash.
Alors pourquoi une procédure aussi compliquée pour atterrir sur Mars ?
Alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi il est si difficile et dangereux de se poser sur la surface de Mars. Pour faire simple, tout vient de la taille. Comme je l'ai déjà expliqué ici, cette planète a une taille intermédiaire entre la Terre et la Lune. Étant plus petite que la Terre, elle s'est refroidie plus vite, donc les volcans n'ont pas continué à alimenter son atmosphère. Et son attraction étant plus faible, ça l'a empêché de conserver une atmosphère aussi dense que la Terre, la plus grande partie s'étant échappée dans l'espace. On se retrouve donc avec une situation intermédiaire, avec une atmosphère mais très peu dense et une petite planète mais avec une attraction bien plus forte que la Lune. Si on se souvient des missions Apollo, il était assez simple de se poser sur la Lune. Comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas besoin d'une forme aérodynamique ni d'un bouclier thermique pour absorber la chaleur due au frottement à grande vitesse sur l'atmosphère. Mais on ne peut pas, du coup, utiliser de parachute non plus. Alors heureusement, la gravité étant faible sur la Lune, on peut freiner l'engin uniquement avec des rétrofusées jusqu'à toucher le sol. Mars ayant une attraction beaucoup plus forte et une atmosphère, s'y poser ressemble beaucoup plus à un atterrissage sur Terre. Sauf que les techniques employées ici, en gros, on rentre dans l'atmosphère avec un bouclier thermique, puis soit on freine avec des parachutes comme Apollo ou Soyouz, soit on se pose comme un avion ou la navette spatiale. Ces techniques ne fonctionnent pas sur Mars en raison de l'atmosphère très peu dense. Pour freiner un engin de 600 kg comme Schiaparelli, il faudrait des parachutes tellement grands, donc lourds, que ce n'est pas envisageable. Cela peut aider à réduire la vitesse avec un paramètre plus petit, mais pas de réaliser l'atterrissage final à basse vitesse. Dans le passé, on a utilisé différentes techniques, comme des sortes d'airbags entourant la sonde complètement et la laissant rebondir plusieurs fois sur le sol martien. C'était le cas des robots Spirit et Opportunity en janvier 2004, mais ils ne pesaient que 180 kg. Pour des sondes plus grosses et plus fragiles, on utilise plutôt des rétrofusées, comme l'espèce de grue qui a déposé en douceur le gros Curiosity de 900 kg en août 2012. C'est donc en raison de cette configuration particulière de Mars, sa taille et son atmosphère peu dense, et de la complexité des procédures de freinage et d'atterrissage, hein, on sait bien que plus un système est compliqué, plus il risque de tomber en panne, que s'explique la plupart des échecs jusqu'à présent, avec seulement 30% d'atterrissage réussi sur Mars. Et bien sûr, il y a aussi des cas où les erreurs sont encore plus stupides.
Par exemple ?
Alors en 1999, la sonde américaine Mars Climate Orbiter a raté sa mise en orbite de Mars et s'est crashée à la surface. Après enquête, la NASA a trouvé l'origine du problème. L'une des équipes travaillant sur le programme informatique de pilotage avait employé encore des unités anglaises, comme les pieds et les miles, alors que l'autre utilisait le système métrique, récemment adopté par la NASA. Et pour la petite histoire, cet orbiteur devait relayer vers la Terre les informations transmises par l'atterrisseur de la mission, qui s'appelait Mars Polar Lander et qui devait explorer la région polaire nord. Mais ça n'a finalement pas été un problème, car il s'est lui aussi crashé à la surface. Ses rétrofusées s'étant coupées, par erreur, 40 mètres avant de toucher le sol. Ce qui est préoccupant avec l'échec de Schiaparelli, c'est que la seconde phase de la mission, prévue en 2020, prévoit de poser un robot bien plus précieux à la surface de Mars, car il doit s'y déplacer pendant un an pour explorer la structure de la planète en profondeur avec un sismomètre, étudier la présence d'eau dans le sous-sol et rechercher des signes de matière organique, donc de l'existence d'une vie sur Mars. Et si je regarde encore un peu plus loin, comme je l'ai déjà dit ici, je ne pense pas qu'une mission humaine vers Mars soit envisageable à court ou moyen terme. Les courageux astronautes qui s'envoleront un jour vers la planète rouge n'ont pour le moment même pas une chance sur deux de s'y poser en vie. Donc ça fait un peu réfléchir.
Allez, deuxième partie de votre chronique autour du thème de la conquête spatiale.
Voilà, comme je l'ai dit le mois dernier, l'évocation ici de certaines missions spatiales au fil de l'actualité donne sans doute un tableau un peu disparate et décousu. Et j'ai trouvé qu'il pouvait être utile de consacrer un peu de temps pour établir une approche un peu plus cohérente et historique. Peut-être en deux parties. Aujourd'hui, on va parler des débuts de la conquête spatiale et des raisons qui nous poussent à aller dans l'espace. Et la prochaine fois, je dresserai un panorama un peu plus complet du foisonnement des sondes envoyées dans le système solaire, qui est l'un des domaines les plus actifs actuellement. Alors si je peux me permettre une petite remarque personnelle, j'ai la chance d'être né un peu après la guerre, dans ce qu'on appelle la fameuse génération du baby-boom, donc avec les débuts de l'ère spatiale. Je suis né en 1958, un an après le lancement de Sputnik. Cela m'a permis d'assister pendant mon enfance à l'époque héroïque de la course vers la Lune, et cela constitue un ensemble de souvenirs très forts, comme je crois la plupart des personnes de ma génération. Et la période actuelle, avec une exploration spatiale beaucoup plus rationnelle, ne peut pas égaler cette période des années 60-70, même si certaines missions spectaculaires comme Rosetta redonnent un peu plus de lustre à ce domaine qui est devenu plus monotone en se banalisant au fil du temps aux yeux du public.
Allez, comment la conquête spatiale a débuté ?
Alors pour commencer, l'idée de partir voyager dans le ciel ou dans l'espace a d'abord fait son chemin en littérature ou dans les arts. Ça remontait à des œuvres très anciennes, car l'homme a rêvé de tout temps de quitter le sol, comme dans la fameuse légende d'Icare, par exemple. On peut au moins retourner plus d'un siècle en arrière, au XIXe siècle, avec les célèbres romans de Jules Verne, De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, étrangement prémonitoires d'ailleurs par rapport aux futures missions Apollo. Je pense aussi aux premiers films de science-fiction, mais je ne parle pas de Star Trek ou de Star Wars, comme pourraient le croire de jeunes auditeurs, mais du Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1902. Et c'est aussi au début du XXe siècle que le concept de voyage spatial apparaît dans la science, avec notamment un russe, alors c'est moi maintenant qui vais avoir des problèmes de prononciation, Konstantin Tsiolkovsky, écrit les équations du vol spatial, conçoit sur le papier des vaisseaux et imagine même l'ascenseur spatial, encore impossible à réaliser avec notre technologie actuelle, mais qui sera sans doute un jour le moyen le plus économique de quitter le sol pour une orbite géostationnaire. De son côté, l'Américain Robert Goddard expérimente des fusées qui ressemblent à des jouets ou à des maquettes, mais il teste déjà des fusées à plusieurs étages dès 1909. Comme pour beaucoup de technologies coûteuses, c'est dans le domaine militaire qu'elles se développent d'abord, et plus spécialement en temps de guerre. Pour les lanceurs, ce sont les nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui mettent au point d'abord les missiles V1, une sorte d'avion à réaction sans pilote pour bombarder Londres, puis les V2, le premier missile balistique capable de transporter une lourde charge explosive et de produire des dégâts énormes à son point de chute. C'est le précurseur des missiles nucléaires intercontinentaux. Tout le monde connaît sa silhouette caractéristique, car faute d'autres exemples, Hergé s'en est inspiré pour la fusée rouge et blanche qui emmène Tintin vers la Lune dans Objectif Lune, paru en 1950. Car tout le monde sait que Tintin a été le premier homme à poser le pied sur la Lune. Et d'une certaine façon, ce sont les V2 des nazis qui ont permis à l'homme d'aller sur la Lune. Car à la fin de la guerre, les deux blocs ont profité chacun à leur manière de cette technologie. Les Américains, en récupérant les ingénieurs qui travaillaient sur ces engins et ne voulaient pas tomber aux mains des Russes, notamment le célèbre Werner von Braun, qui sera le père de la conquête spatiale américaine dans les années 60 et 70. De leur côté, les Soviétiques ont récupéré l'usine de production des V2 à Dora, ce qui a fait gagner du temps à leur ingénieur génial, hein, Sergei Korolev, ou Korolov, on peut prononcer les deux, je crois, dans la mise au point du lanceur Vostok puis Voskhod, ancêtre des Soyouz, qui sont encore aujourd'hui parmi les lanceurs les plus fiables.
Donc après la guerre, c'est le début du spatial.
Après la guerre, s'est engagée la course entre l'Est et l'Ouest pour la domination de l'espace, toujours pour des raisons militaires. Depuis l'espace, avec des satellites ou des hommes en orbite autour de la Terre, on peut observer tout point du globe. On peut communiquer sur de longues distances sans relais au sol, et on pourrait même frapper rapidement si on disposait de missiles en orbite. Et bien sûr, la technologie des lanceurs est aussi utilisée pour les missiles nucléaires intercontinentaux. Au début, les Américains rencontrèrent de nombreux échecs, notamment par la dispersion de leurs moyens entre leur marine et leur armée de l'air. Et ce sont les Russes qui réussissent toutes les premières. Le 4 octobre 1957, avec le petit satellite Sputnik que le monde entier entend passer en captant son signal à la radio. Le 3 novembre 1957, avec la première mise en orbite d'un animal, la petite chienne Laika. Le 7 octobre 1959, avec la première sonde en orbite lunaire, Luna 3. Le 12 avril 61, avec l'envoi du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Et la première sortie dans l'espace d'Alexei Leonov, le 18 mars 1965.
Et que font les Américains?
Alors, pour répondre à cette suprématie incontestable, les Américains ne réussissent qu'à envoyer un singe dans l'espace en janvier 61, plus de 3 ans après Laika, puis un homme en mai 1965, Alan Shepard, moins d'un mois après Gagarin. Mais ça n'était pas comparable, car il n'a même pas effectué une orbite complète. C'était une espèce de vol en parabole, comme ça, dans l'espace. Et le vol complet en orbite d'un Américain, ce sera John Glenn, seulement l'année suivante, en février 1962. C'est pour rattraper leur retard indiscutable que les USA vont créer la NASA, une institution unique qui coordonnera tout leur programme spatial et que leur président John Fitzgerald Kennedy, lors d'un discours historique devant le Congrès en mai 61, fixe le dernier objectif à conquérir avant les Russes, poser un homme sur la Lune avant 10 ans et le ramener vivant, bien entendu, comme il l'a précisé. C'est avec le programme Apollo qu'ils réussiront cet exploit et avec la plus puissante fusée jamais construite, la Saturne V, ayant une poussée au décollage de 3400 tonnes, c'est-à-dire que ses moteurs seraient capables de faire décoller la Tour Eiffel. Pour tout cela, ils consacrent plus de 2% de leur budget fédéral pendant 8 ans, avec des pointes à plus de 5% en 65 et 66. Quand on voit les financements publics consacrés aujourd'hui à la recherche scientifique et notamment à l'astronomie et au spatial, ça fait rêver. À titre de comparaison, le budget 2016 de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est de 5 milliards d'euros, dont presque la moitié versée par la France et l'Allemagne, leur part respective ne représentant que même pas 0,3% de leur budget, c'est-à-dire un effort 10 fois moins fort que ce qu'ont fait les Américains au temps d'Apollo. Avec les moyens énormes consacrés à la NASA, la réussite est au rendez-vous. En 1968, avec Apollo 8, c'est la première mise en orbite autour de la Lune, permettant à l'équipage de découvrir la face cachée de notre satellite, mais il faut le rappeler, 7 ans après que Luna 3 des Russes l'ait photographiée. Puis l'alunissage historique de la mission Apollo 11, le 21 juillet 1969, la première fois que l'homme posait le pied sur un autre astre que la Terre. Alors, pour revenir à mon expérience personnelle, je me souviens encore avec beaucoup d'émotion de ce spectacle incroyable, de Neil Armstrong effectuant en scaphandre les premiers pas sautillants sur le sol lunaire, retransmis en direct dans le monde entier. J'avais à peine 10 ans et mes parents m'avaient réveillé au milieu de la nuit pour ne pas le rater, car si ça avait été calé dans la soirée du 20 juillet pour les spectateurs américains, c'était à 4h du matin le 21 juillet en France. Et on avait regardé cet événement historique sur une petite télé, la première que mes parents avaient achetée, une télé en noir et blanc, achetée l'année précédente à l'occasion des Jeux Olympiques de Mexico. Alors on le sait peu, mais les Soviétiques avaient aussi leur propre programme lunaire habité, qui a échoué, notamment parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre au point un lanceur assez puissant, et aussi en raison de la mort de Korolev en 1966. Et il y a eu, après Apollo 11, encore 6 missions lunaires, jusqu'à Apollo 17 en 1972, toutes réussies sauf Apollo 13, qui a donné lieu à un sauvetage incroyable de l'équipage, tout le monde connaît le film, je pense. Et puis on a stoppé le programme, qui devait au départ aller jusqu'à Apollo 20, et les dernières fusées Saturne V ont terminé leur carrière dans des musées américains.
Mais pourquoi cet arrêt prématuré?
Alors, au risque d'être un peu caricatural, je dirais que c'est un problème d'audimat. Autant les premières missions Apollo tenaient en haleine des millions de téléspectateurs devant leur poste aux États-Unis et partout dans le monde, autant la répétition des missions lunaires se faisait dans une indifférence de plus en plus grande. Après la compétition frénétique de la course à la Lune entre les deux blocs, motivée par une volonté de prestige scientifique en pleine guerre froide, la NASA a préféré arrêter les frais et se réorienter vers d'autres missions. C'est ainsi que les vols habités se sont consacrés à l'orbite terrestre avec le Skylab en 1973 et 1974. C'était un laboratoire spatial bricolé à partir d'un étage de fusée Saturne V. Puis une mission conjointe Apollo-Soyuz en 1975, qui était le début symbolique de la coopération internationale dans le domaine spatial et qui s'est concrétisée ensuite avec la station Mir, puis l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Dans le même temps, les Américains ont abandonné les lanceurs de type fusée au profit de la navette spatiale. Son premier vol était en 1981. La navette était destinée justement à faire des lancements très fréquents et moins chers, car on récupère la plus grande partie de l'engin qui se pose comme un avion. Ce système n'a jamais donné entière satisfaction, car au lieu d'une vingtaine de missions par an, qui était l'objectif initial, les 5 navettes construites n'ont réalisé au total que 135 vols en 30 ans, c'est-à-dire un peu plus de 4 par an en moyenne. Et on se souvient que 2 ont été détruites lors de terribles accidents ayant causé la mort de leur équipage. L'explosion de Challenger au décollage en 1986, puis la destruction de Columbia en 2003 lors de sa rentrée atmosphérique. Aujourd'hui, on en est revenu aux fusées classiques, Soyuz, pour l'envoi des équipages vers l'ISS.
Mais que font les astronautes autour de la Terre ?
Alors l'intérêt de placer des hommes en orbite basse dans l'ISS, c'est de pouvoir y réaliser toutes sortes d'expériences en apesanteur qu'on ne peut pas réaliser sur Terre. Et notamment des expériences médicales pour voir comment les corps des astronautes s'adaptent aux conditions difficiles de vie dans l'espace et en apesanteur. Pour mieux évaluer les possibilités d'aller un jour s'installer sur la Lune pour de très longs séjours de plusieurs mois, ou tenter un jour lointain le trajet jusqu'à Mars. Et bien entendu, depuis l'ISS, on peut aussi observer la Terre. Pour conclure cette première partie, puisque je continuerai le mois prochain, je crois utile de rappeler quels sont les 4 types d'intérêts d'envoyer des engins et des hommes dans l'espace. Tout d'abord, les satellites en survolant la Terre permettent de l'étudier. Et c'est le cas par exemple dans le domaine de la météorologie et du climat, des océans, des cultures, de la déforestation et un tas d'autres sujets comme ça. Sans oublier bien sûr le domaine militaire, qui a été le premier motif d'envoi de satellites et qui reste encore aujourd'hui un volet très actif. Mais il est difficile de trouver une estimation fiable du nombre de satellites militaires orbitant autour de la Terre sur les environ 3000 satellites actuellement en activité au-dessus de notre tête. Depuis Spoutnik, on estime qu'on a envoyé à peu près 7000 satellites, un tout petit peu moins de 7000 satellites autour de la Terre. En second lieu, les satellites sont utilisés aussi par des systèmes de communication. Par exemple, la flotte de satellites Iridium en orbite basse pour des liaisons téléphoniques directes et que l'on observe souvent produire des flashs dans le ciel quand ils reflètent parfois intensément la lumière du soleil. Il y a aussi ceux placés en orbite géostationnaire permettant de braquer une parabole sur leur position fixe dans le ciel, comme ceux qui sont utilisés pour relayer des chaînes de télévision. On peut aussi mettre dans cette catégorie de satellites de communication les systèmes de positionnement, comme le GPS américain ou le futur Galileo européen, car c'est grâce aux signaux envoyés par plusieurs satellites que le récepteur au sol peut calculer sa position. Donc on voit qu'à côté des objectifs scientifiques ou militaires, on est entré dans une ère d'exploitation commerciale des satellites, donnant lieu à un développement de toute une branche économique, allant de la construction des lanceurs comme Ariane et des satellites, jusqu'à l'exploitation dans différents domaines des informations recueillies ou des systèmes de communication mis en place. Et le privé, on observe ces dernières années, prend une place de plus en plus grande dans ce domaine par rapport aux opérateurs publics comme la NASA ou l'ESA. Le troisième domaine de l'exploration spatiale est l'envoi aussi dans l'espace de télescopes d'observation astronomique, pour qu'ils ne soient pas gênés par l'atmosphère. C'est le cas du fameux Hubble de la NASA, mais aussi d'autres télescopes qui observent dans des longueurs d'onde que l'atmosphère terrestre ne laisse pas passer. Au sol, ces télescopes seraient totalement aveugles, aussi bien dans l'infrarouge que dans l'ultraviolet ou les rayons X. Heureusement que l'atmosphère nous protège de ces rayonnements, car certains pourraient empêcher toute vie sur Terre. Mais c'est un problème quand les astronomes veulent étudier des objets de l'univers dans tout leur spectre d'émission. Et enfin, la quatrième raison d'aller dans l'espace, c'est l'envoi des sondes, orbiteurs ou atterrisseurs, pour explorer les seuls objets qui sont à notre portée, après des mois ou des années de trajet, c'est-à-dire les objets du système solaire, les planètes, leurs satellites naturels, les astéroïdes et les comètes. Et donc le mois prochain, je reviendrai sur ces missions robotisées dans le système solaire pour mieux comprendre l'intérêt et les objectifs de cette exploration scientifique.
Allez, troisième partie de votre chronique numéro 26. Michel, vous allez nous parler du ciel du mois.
Voilà, en commençant par la voûte céleste, les constellations. Alors nos auditeurs ont sans doute remarqué qu'en automne, les jours raccourcissent nettement et le coucher du soleil de plus en plus tôt fait que le ciel de l'été persiste encore en début de nuit, avec en ce moment au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête, le triangle de l'été formé par les étoiles Vega, Deneb et Altaïr. Mais ce ciel de l'été cède progressivement la place au ciel de l'automne, avec sa figure centrale qui est Pégase, le cheval ailé des légendes grecques, qui forme comme un grand carré régulier. Autour de lui, les autres constellations nous racontent la légende d'Andromède. Andromède elle-même, qui prolonge Pégase vers l'est, séparant Céphée et Cassiopée dans la zone circumpolaire, c'est-à-dire qui tourne autour de l'étoile polaire, suivi de Persée, le héros qui sauva Andromède du monstre marin, figuré par Cétus, la baleine pour les chrétiens, placée sous Pégase. Alors pour une explication plus détaillée, je renverrai les éditeurs à notre chronique d'octobre 2014, qui est peut-être encore disponible sur le site de Audio Radio, je sais pas, mais qui se trouve sur notre site web, hein, www.constellationsetgalaxies.org, comme toutes les chroniques de ces deux dernières années, dans la rubrique Revue de presse du menu Planétarium, en attendant qu'une page spéciale leur soit consacrée parce qu'elles prennent de plus en plus de place. Je profite de l'évocation de notre site web pour rappeler que dans la page Le ciel du mois de la rubrique Astronomie, on trouve les cartes du ciel pour apprendre à reconnaître les constellations de la saison et situer quelques objets faciles à observer, parfois à l'œil nu, mais plus souvent avec une simple paire de jumelles. Alors en automne, on peut voir dans le ciel, bien sûr dans un ciel pas complètement brouillé par la pollution lumineuse hein, comme en ville, l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu, c'est la grande galaxie d'Andromède, qui est à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous, et qui se situe dans Andromède, mais qui est facile à repérer à partir du carré de Pégase. À propos de l'observation du ciel, je signale que le passage à l'heure d'hiver le week-end prochain fera venir la nuit encore plus tôt, ce qui est favorable à l'observation du ciel nocturne sans être obligé de veiller très tard. Ces jours-ci, le soleil se couche vers 19h et la nuit bien noire arrive vers 20h, mais dès dimanche, le coucher sera avant 18h et le ciel noir arrivera vers 19h. Je rappelle que ce changement d'heure n'a aucun rapport avec un phénomène astronomique réel, mais correspond juste à une politique d'économie d'énergie en bénéficiant en été de soirées plus longues, donc moins de consommation électrique pour l'éclairage.
Allez, les planètes.
Alors la plus évidente des planètes visibles en ce moment est Vénus, qui prend une place de plus en plus brillante vers l'ouest en début de nuit, visible jusque vers 8h30 en ce moment, à 20h30, soit environ 1h30 après le coucher du soleil. Mais elle restera de plus en plus longtemps dans le ciel au fil du mois de novembre, plus de 3 heures après le coucher du soleil à la fin du mois. Saturne n'est plus guère visible qu'au crépuscule, donc de mauvaises conditions. Par contre, Mars est encore bien repérable à sa couleur orangée, même si son éclat a bien diminué au fur et à mesure que nous nous éloignons de lui. Actuellement, il est encore vers le sud en début de nuit noire, dans la constellation du Sagittaire, et ne se couche que vers 11h30, hein, 23h30. Au cours du mois de novembre, comme il se déplace encore assez rapidement vers l'est en direction du Capricorne, il reste visible à peu près dans les mêmes conditions. Dans le ciel du matin, on commence à pouvoir apercevoir Jupiter depuis la mi-octobre et elle se lève de plus en plus tôt dans les semaines qui viennent. En ce moment, c'est à partir de 6h30 qu'on peut la voir, soit à peu près 2h avant le lever du soleil, mais à la fin novembre, ce sera plus de 4h avant le soleil, ce qui commence à le rendre observable dans de bonnes conditions si on se lève tôt, bien sûr.
Allez, toujours dans le cas de l'actu du mois, les éphémérides.
Alors, comme tous les mois, hein, pas de phénomène très remarquable, à part des conjonctions de planètes ou avec la Lune. Alors, ce vendredi 28 octobre vers 6h30, le fin croissant de Lune et Jupiter se lèveront très proches dans le ciel. Le lendemain, samedi 29, au crépuscule, jusqu'à peu près vers 20h30, hein, en heure d'hiver toujours, soit 1h30 après le coucher du soleil, on verra Vénus à côté de Saturne. C'est une proximité qui a déjà commencé ces jours-ci et se prolongera plusieurs jours. Et ce serait l'occasion, hein, si on pouvait l'observer, de voir le mouvement de Vénus jour après jour par rapport à Saturne, qui est pratiquement fixe dans le ciel. Les 2 et 3 novembre, juste à la fin des vacances scolaires, le fin croissant de Lune viendra rejoindre les deux planètes dans le ciel du soir, ce qui pourrait donner lieu, à, par exemple, à de jolies photos, hein, si le ciel était clair. Le soir du dimanche 6 novembre, le gros croissant de lune rejoindra Mars vers le sud. Et ensuite, il faudra patienter jusqu'au vendredi 25 novembre, pour que le fin croissant rejoigne Jupiter dans le ciel du matin à partir de 4h environ. Mais bien sûr, on trouvera plus de détails sur notre site web.
Constellations-et-galaxies.org. Alors Michel, déjà bravo hein, pour tout ce travail hein, de présentation, de réalisation de vos chroniques. Alors pour la chronique numéro 27... Un petit aperçu, bien sûr, on va coller à l'actualité.
Alors l'actualité, on ne peut pas la deviner à l'avance.
Enfin, bon, c'est pour ça que je dis que
il n'y a plus d'autres arrivées sur Mars, donc il n'y aura pas de nouveau crash, je ne pense pas.
Par bon, contre, ça, on ne peut pas prévoir, mais...
Ouais, par contre, comme je l'ai dit, je continuerai le thème de la conquête spatiale en revenant plus spécialement sur tous ces engins, un peu la logique et je dirais tout la démarche scientifique qui a derrière cette exploration de notre système solaire par des sondes automatisées, robotisées.
Voilà, donc on se verra le dernier mercredi du mois de novembre. Et avant de se quitter, bien sûr, dire quelques mots hein, sur votre association hein, Constellation et Galaxie.
Donc, une association tournée vers la diffusion de la culture scientifique, en particulier dans le domaine de l'astronomie, mais pas uniquement. Comme on est sur Bordeaux, la région bordelaise, donc c'est surtout l'intervention du planétarium hein, qui peut se produire si des professeurs, des écoles, des collèges ou des lycées nous font venir.
Des centres de loisirs, des associations,
pourquoi pas. Il faut bien remarquer que le public a toujours un appétit pour la connaissance du ciel. Hein. C'est un des domaines scientifiques où il n'y a pas besoin de forcer la main. Tout le monde voudra en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe au-dessus de notre tête. On peut trouver plus d'infos sur notre site web. Hein. Donc, je répète, www.constellationzgalaxie, hein, tout au pluriel.org. Dans la rubrique planétarium, on va trouver toutes les informations sur la place dont il faut disposer pour installer le planétarium gonflable, sur les tarifs aussi, parce que tout ça n'est pas gratuit, on n'a pas suffisamment
de
subventions.
Bien sûr, voilà. Oui, mais c'est légitime, c'est bien de le rappeler.
Et dans le menu astronomie, le ciel du mois, qui reprend, mais en détaillant bien plus le travail que je fais ici sur un petit peu les éphémérides, les conditions dans lesquelles on peut observer les planètes, et une explication des principales constellations de la saison, hein, leur origine mythologique, et bien sûr les cartes, hein, parce qu'à la radio, il est quand même difficile de parler de tous ces dessins que font les étoiles dans le ciel.
Oui, mais c'est pour ça qu'on relaie sur Facebook, l'image. En invitant à aller, bien sûr, sur le site. Michel, c'est bon, on a à peu près fait le tour.
Pour moi, ça va.
Voilà, en tout cas, merci encore, Michel, hein, pour tout ce travail hein, de passionné et d'érudit.